Le journal Antoine Geoffin.
Bonjour à tous. En Algérie, la commission indépendante d'organisation des élections a rendu sa décision hier. 5 dossiers de candidats ont été validés sur les 23 déposés la semaine dernière. Les détails à Alger avec Leïla Berhatou.
Ils seront 5 en course pour être le prochain président après 20 ans de règne d'Abdelaziz Bouteflika et un mouvement de protestation populaire inédit. Abdelaziz Belaïd, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Azdin Mioubi et Abdelmajid Tebboune, ces 5 hommes qui ont entre 56 et 75 ans, ne sont pas des inconnus. 2 sont à la tête de petits partis politiques qui soutenaient Abdelaziz Bouteflika. Ali Benflis a été chef de gouvernement lors du premier mandat de l'ancien président. Azdin Mioubi et Abdelmajid Tebboune, eux, étaient en poste pendant le 4e mandat, l'un comme ministre de la Culture, l'autre comme ministre de l'Habitat puis comme premier ministre. Aucun n'est donc issu de la société civile ou n'est une personnalité qui aurait été remarquée dans le mouvement de contestation. La liste des candidats ne comporte donc aucune surprise, aucune nouveauté, aucun indice susceptible de convaincre les Algériens que depuis le 22 février, le fonctionnement politique a pu changer. Les dossiers vont maintenant être transmis au Conseil constitutionnel et c'est ce Conseil qui doit valider une dernière fois les dossiers et statuer sur les recours d'ici une semaine.
Leïla Berhatou, le groupe État islamique a revendiqué hier soir 2 attaques, celle ayant tué 49 militaires maliens vendredi et celle à l'explosif fatal à un brigadier français hier matin, toujours au Mali. Pour Francis Simonis, maître de conférence en histoire de l'Afrique à l'université Aix-Marseille, il est probable que les 2 attaques soient liées, contrairement à ce qu'affirmait hier soir l'état-major français. Malgré les efforts des soldats de Barkhane, les djihadistes se renforcent dans la région. Francis Simonis.
Jusqu'à présent, Daesh s'en prenait rarement directement aux soldats français. Et puis quand elle tentait de le faire, ça se passait mal. C'est ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours. Un groupe de Daesh s'en est pris à l'opération Barkhane et ils ont été taillés en pièces. Le but de l'opération Barkhane, c'est de lutter contre les groupes djihadistes présents dans la région. Et ça, Barkhane le fait plutôt bien. La semaine dernière encore, elle a démantelé un micro-groupe djihadiste dans la région d'ailleurs où ont eu lieu ces attaques. Le problème, c'est que l'armée française ne peut pas protéger les bases maliennes et c'est pas son rôle. Les forces internationales sont là pour protéger les populations, pour lutter contre les groupes armés, mais pas pour protéger l'armée malienne. La situation est catastrophique. Le gouvernement malien est incapable de reprendre le contrôle des zones qu'il a abandonnées depuis quelques années. Et les forces maliennes sont à la fois démotivées, mal entraînées, probablement mal armées. Et puis les groupes djihadistes se renforcent, ils prennent confiance en eux, ils sont capables de mener des opérations de plus en plus grandes, de plus en plus complexes.
Le spécialiste de l'Afrique, Francis Simonis. À Glasgow, plusieurs milliers de personnes rassemblées hier après-midi pour un rassemblement pour l'indépendance de l'Écosse. Sous la pluie et le brouillard écossais, plusieurs représentants politiques se sont exprimés, dont la première ministre Nicola Sturgeon. Précision sur place de Marina Daras.
C'est devant une marée de drapeaux blancs et bleus sur George Square que les habitants de Glasgow ont renommé Place de la Liberté que Nicola Sturgeon a officiellement relancé sa campagne en faveur de l'indépendance de l'Écosse. Les Écossais avaient voté à plus de 55% pour rester au sein du Royaume-Uni lors du premier référendum de 2014. Mais bien évidemment, le Brexit a ravivé les volontés sécessionnistes de l'Écosse, une Écosse profondément européenne, puisque 2 ans plus tard, en 2016, les Écossais votaient à 62% pour rester au sein de l'Union européenne.
Je vous demande, alors que je m'apprête à vous mener vers ce référendum d'indépendance l'année prochaine, de faire en sorte, au cours des prochaines semaines, de persuader tous ceux que nous connaissons, famille, amis, voisins, de se mobiliser le 12 décembre prochain pour envoyer le message le plus clair à Westminster, de leur dire qu'il est temps pour l'Écosse d'être maître de son propre avenir. Il est temps pour l'Écosse d'être un pays indépendant. Car, mes amis, c'est cette Écosse-là que nous voulons.
L'Écosse est à un tournant majeur de son histoire, a ajouté Nicola Sturgeon, et les élections du 12 décembre prochain seront les plus importantes et les plus déterminantes pour le futur du pays.
Marina Daras. L'équipe de Charlie Hebdo à la rencontre de ses lecteurs, une première depuis l'attentat en janvier 2015 qui avait décimé une partie de la rédaction. C'était hier, cette rencontre à Strasbourg, lors d'une table ronde dans le cadre de la 8e édition du Forum mondial de la démocratie. Notre envoyé spécial Antoine Marette était dans la salle.
Ils sont presque tous présents face à une salle pas tout à fait pleine. Les membres de Charlie Hebdo à la rencontre de leurs lecteurs comme au bon vieux temps. Sur la scène de l'Opéra du Rhin, le directeur de l'hebdomadaire RIS le dit et le répète, près de 5 ans après l'attentat, Charlie est toujours en vie et plus combatif que jamais.
Le dessin satirique, la presse satirique et même la presse libre en général, c'est un sport de combat. Donc il ne faut pas non plus se laisser impressionner par les gens qui sortent leurs muscles, qui injurient ou qui menacent. Il faut leur répondre et il ne faut pas se laisser intimider. Voilà, il y a aussi un peu un rapport de force d'intimidation qui ne doit pas nous tétaniser. Au contraire, ça doit nous galvaniser pour être encore plus combatifs dans ce qu'on fait.
Pendant près de 2 heures, les paroles défilent, les dessins aussi en arrière-plan. Et quand la caricature d'Edouard Plenel apparaît, la salle rit de bon cœur et le rédacteur en chef Gérard Biard s'en prend à celui qui a accusé Charlie Hebdo de faire la guerre aux musulmans.
Il y a lui, par exemple, qui a toujours été un collabo. Ça a toujours été des collabos, ces gens-là. Ils ont été toujours du côté du manche de la matraque. Et puis, il y a ceux qui le font tout bêtement par trouille. Alors après, la trouille, ils appellent ça le respect. Mais ça reste la trouille devant ce qu'on est bien obligé d'appeler un racket à la violence. Le prix, il est toujours plus haut, il est toujours plus fort. Ça ne s'arrête jamais. Il faut refuser de payer, parce que sinon, le racket, il ne s'arrête jamais.
Pendant la séance de dédicace qui suit la table ronde, toutes les générations défilent face à l'équipe de Charlie Hebdo. Certains n'ont découvert l'hebdomadaire satirique qu'après l'attentat de 2015, comme un pied de nez aux terroristes qui voulaient anéantir Charlie.
Antoine Marette. La météo, enfin, 15 départements, toujours en alerte orange au vent violent dans le centre-ouest et le sud-ouest. La tempête Amélie est arrivée dans la nuit avec ses rafales à plus de 160 km/h au Cap Ferret notamment. Les Alpes-Maritimes et la Corse du Sud sont eux en vigilance orange, pluie, inondation. Sans surprise, le temps est très pluvieux partout aujourd'hui, du mieux un peu cet après-midi pour la côte méditerranéenne. Vous aurez du soleil, 13 degrés ce matin à Paris, 15 à Biarritz, 11 à Lille cet après-midi, 14 à Bordeaux, 11 à Amiens, la maximale pour Nice avec 20 degrés.